y a toujours de la place pour informer, s'informer, déformer avec les oiseaux de l'information.
Bonjour et bienvenue sur Globule Radio. Nous sommes trois élèves de 4e au collège Jeanne d'Arc et notre thème pour cette émission est informer, s'informer, déformer. Je m'appelle Tobias et je suis l'animateur de ce groupe.
Bonjour, je m'appelle Eline et je suis la responsable conducteur de ce groupe.
Bonjour, je m'appelle Anaïs et je suis la technicienne de ce groupe.
Vous allez maintenant écouter Balance ton quoi de Angel. Nous avons choisi cette musique car elle dénonce le sexisme en 2018.
Ils parlent tous comme des animaux, de toutes les chattes, ça parle mal. 2018, je sais pas ce qu'il te faut, mais je suis plus qu'un animal. J'ai vu que le rap est à la mode et qu'il mange mieux quand il est sale. Bah faudrait peut-être casser les codes, une fille qui l'ouvre, ce serait normal. Balance ton quoi. Tu parles mal des filles, je sais qu'au fond t'as compris. Balance ton quoi, un jour peut-être ça changera. Balance ton quoi. Donc laisse-moi te chanter. Drôle, t'es pas si laide, tes parents et ton frère ça aide. Oh, tu parles de moi, c'est quoi ton problème? J'ai écrit rien que pour toi, le plus beau des poèmes. Laisse-moi te chanter. Ça changera. Y'a plus de respect dans la rue. Tu sais très bien quand t'abuses. Balance ton quoi. Balance ton quoi.
Est-ce que c'est bien le cas pour tout le monde?
Pardon, moi je reviens juste sur un point qui est pas forcément hyper limpide. C'est juste que quand une fille dit non, j'ai l'impression quand même que souvent ça sous-entend que c'est...
C'est non.
Non. D'accord. Ah ouais. Ah, faut bien... c'est pas si simple, faut bien choper le truc, hein.
Moi, ce que j'ai compris, en fait...
Pardon, c'est
que
je te coupe. Ouais, je te coupe. C'est juste parce qu'il y a un deuxième point, c'est que quand une fille dort, on sait pas, du coup, si on peut, si on peut pas. Et du coup, je me dis, peut-être que dans le doute, on peut tenter...
Non, la laisser dormir. Si elle dort, tu la laisses dormir.
Eh oui. Eh ben oui, ok. D'accord.
Et pas penser qu'on peut imposer notre désir, vous aviez dit.
Ouais. Très bien, Tobias. Après, c'est pas la peine de crier, oui, mais c'est super.
Pas la peine de crier, parce que comme on est tous là, on entend très bien.
Oui, des petites remarques, toujours.
Quoi? Un problème?
Non, si tu fais toujours des petites remarques, voilà. Et... Tu ferais mieux d'essayer de comprendre les femmes, tu vois, de les écouter.
Ah,
tu vois,
écoutez, moi, j'écoute pas les femmes. Moi, j'écoute pas les femmes.
Semblait.
On voit tous que t'as aucune sensibilité tout à l'heure. Oui,
excuse-moi. Calmez-vous, je pense que ce que vous essayez...
Oh, tais-toi.
Ta gueule.
Pourquoi?
Elle intervient au milieu du... Tout hystérique, là. C'est fou de faire ça.
Très désagréable. On parlait du désir.
C'est con, pourquoi on s'embrouille comme ça? C'est elle qui me coupe, hein, coupeuse.
Laisse-moi te chanter. T'allais te faire en... Moi je passerai pas à la radio. Parce que mes mots sont pas très beaux. Laisse-moi te chanter.
Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand une fille dit non, on peut croire que... Et en fait, c'est non.
Pour commencer, nous allons écouter une chronique de Tobias dans laquelle il nous parle de comment s'informer.
Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Tobias et je vais vous parler plus précisément de comment s'informer. Je vais d'abord vous parler de comment l'accès à la formation a changé ces dernières années, puis je vous donnerai des conseils d'un journaliste que j'ai rencontré sur comment éviter les fake news, comment être sûr de ses informations sur Internet. Ces dernières années, l'accès à la formation a beaucoup changé. En effet, nous sommes passés d'un accès plutôt lent, où il fallait aller chercher les informations à la bibliothèque ou autre, à un accès très rapide grâce à Internet. Mais cela a quand même beaucoup plus d'inconvénients, comme les fake news ou autres. Bien, maintenant, comment éviter tout ça, me diriez-vous ? Eh bien, je me suis posé la même question. C'est pourquoi je suis allée directement poser des questions à un journaliste et lui ai demandé conseil. J'ai eu l'occasion de rencontrer Charlotte Lang, journaliste à Radio Cité Genève, une radio locale genevoise. Voici ses propos recueillis. La chose la plus importante est d'avoir plusieurs sources et de les vérifier. Voici quelques sources sûres. L'AFP, Agence France Presse, les médias de qualité comme Le Monde, les communiqués de presse d'organismes, la fonction publique ou les associations, les sources traditionnelles, les bibliothèques, les encyclopédies, les musées. Une fois les sources vérifiées, il est très important de recueillir des témoignages. Interviews, micro-trottoirs, portraits, reportages. Une fois ces sources rassemblées, les confronter les unes avec les autres. Il est inévitable qu'un journaliste soit confronté à une fake news à un moment donné. Pour conclure, le métier de journaliste s'apparente beaucoup à celui de l'historien, car il doit vérifier ses sources, rester neutre et faire preuve de discernement.
Je suis pas tout seul à être tout seul, ça fait déjà ça de moins dans la tête. Et si je comptais combien on est, beaucoup, tout ce à quoi j'ai déjà pensé, dire que plein d'autres y ont déjà pensé, mais malgré tout, je me sens tout seul. Du coup, j'ai parfois eu des pensées suicidaires, j'en suis peu fier. On croit parfois que c'est la seule manière de les faire taire, ces pensées qui nous font vivre un enfer, ces pensées qui nous font vivre un enfer. Est-ce qu'il y a que moi qui ai la télé et la chaîne culpabilité, mais faut bien se changer les idées, pas trop quand même, sinon ça repart vite dans la tête, et c'est trop tard pour que ça s'arrête, c'est là que j'aimerais tout oublier. Du coup, j'ai parfois eu des pensées suicidaires, j'en suis peu fier. On croit parfois que c'est la seule manière de les faire taire, ces pensées qui me font vivre un enfer, ces pensées qui me font vivre un enfer. Réfléchis, et je sais vraiment pas quoi faire de toi. Justement, réfléchir, c'est bien le problème avec toi. Tu sais, j'ai mûrement réfléchi, et je sais vraiment pas quoi faire de toi. Justement, réfléchir, c'est bien le problème avec toi.
Toujours de la place pour informer, s'informer, déformer avec les oiseaux de l'information. Bonjour, vous êtes toujours sur Globule Radio 90.5 FM avec ses élèves de 4e sur informer, s'informer, déformer. Vous venez d'écouter L'Enfer de Stromae qui parle de la dépression du chanteur. Nous allons à présent écouter une chronique faite par Anaïs et qui va nous parler de la réhabilitation du Mont-en-Vert.
C'est parti pour la réhabilitation du Mont-en-Vert. Le site du Mont-en-Vert va connaître des grands travaux de rénovation durant ces 4 prochaines années. Mais avant de vous en dire plus, voici un petit rappel historique. Le chantier du train du Mont-en-Vert a débuté en 1906, mais c'est seulement le 9 août 1908 que le train a déposé ses premiers voyageurs. En 1946, Georges Claret creuse la première grotte dans le glacier pour permettre aux visiteurs de découvrir l'intérieur de la mer de glace. En 1988, le niveau de la mer de glace a beaucoup baissé et on construit une télécabine pour faciliter l'accès au glacier. Aujourd'hui, le niveau de la mer de glace est celui qu'elle avait au Moyen-Âge avant le dernier petit âge glaciaire. Depuis 140 ans, le glacier a reculé de 2 km et a perdu 220 mètres d'épaisseur au niveau de la gare du Mont-en-Vert, dont 100 mètres dans les dernières 30 années. Depuis le bas de la télécabine, il faut maintenant descendre 550 marches pour atteindre le glacier. C'est pourquoi la Compagnie du Mont-Blanc et la collectivité ont travaillé sur une reconfiguration de ce site. Le projet de réhabilitation prévoit un déplacement de 600 mètres en amont de la télécabine descendant à la mer de glace et la création d'un centre international d'interprétation des glaciers et du climat dont l'ambition sera de faire comprendre les phénomènes liés au réchauffement climatique. Le coût de ces deux projets est estimé à 53 millions d'euros. Les travaux d'accès au Mont-en-Vert sont fermés. Les travaux préparatoires du chantier ont commencé. C'est pourquoi, depuis le 17 mars, certains sentiers d'accès au Mont-en-Vert sont fermés et les horaires des trains modifiés. Quant à la Galerie des Cristaux, elle est définitivement fermée. Alors, amis promeneurs, avant de vous engager dans la montée du Mont-en-Vert, renseignez-vous bien sur l'ouverture de ces sentiers.
Je sais pas comment sauver le monde, mais si je savais, je suis pas sûr que je le ferais. J'ai pas grand chose à t'offrir, à part te dire qui je suis et ce que c'est. Je crois jamais ce qu'on me dit en premier, les mensonges circulent plus vite que le vrai. J'ai couru après le bonheur, sans prendre le temps de savoir ce que c'est. J'essaie d'avoir un enfant, j'essaie d'avoir autre chose que des regrets. Quand tu verras 2022, je comprendrai qu'ils se mettent à pleurer. Ils disent que tout va s'effondrer, qu'on va y passer dans 3 degrés. Je pensais que la science allait nous sauver, mais j'ai de moins en moins confiance au progrès. Je sais même pas pourquoi je pense à ça, j'y connais rien, qu'est-ce que j'y connais. Que de la data pour les GAFA, bâtard, t'es rien d'autre qu'une donnée. J'ai quelques éclairs de génie, mais la plupart du temps, j'suis teubé. J'connais que les mauvais alcools qui donnent l'alcool mauvais. J'avais peur d'avoir rien compris, maintenant j'ai peur qu'il y ait rien à comprendre. Piégé dans notre propre système, prisonnier dans une sauvegarde bloquante. J'viens de là où les darons ressemblent à Cole et j'viens de la campagne normande. Ils aiment juste les bonnes affaires, tout ce qu'ils veulent c'est voir l'émission de la brocante. Maman m'a dit s'il y a des pauvres, c'est qu'ils ont mal travaillé à l'école. C'est pas de sa faute, sa mère racontait le même genre de merde à ses gosses. C'est pas de sa faute, sa mère, bref, faut qu'on brise ce putain de cercle. Il est vicieux ce putain de cercle, j'peux pas le faire tout seul, faut que tu m'aides. Aide-moi.
Aide-moi. Aide-moi.
Marche.
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 Marche avec moi.
Apprends-moi. Méga. Méga, méga, méga. J'peux pas le faire tout seul, faut que tu m'aides. Soyons d'accord de pas toujours l'être. Traite-moi comme tu voudrais que je te traite. Réussir sans faire le bien, c'est perdre. Apprends-moi la franchise, me juge pas, j'aurais moins envie de mentir. On m'a dit sois fort, faut devenir un homme. Rappelle-moi que ma force est d'être sensible. Quand la vie n'a pas de sens, aide-moi à lui en donner un. Écarte-moi des mauvais chemins. Rappelle-moi qu'on peut croire qu'on est personne à trop vouloir devenir quelqu'un. Aide-moi à trouver l'équilibre. Grandir n'est jamais fini. Je sais mieux donner les conseils que les suivre. Un jour on va mourir, tous les autres on va vivre.
Oublie le futur, c'était avant. Oublie le futur d'avant, c'est pas sûr qu'on soit dans. Apprends-moi le pardon, la patience. Faut qu'on soit meilleur que nos parents. Faut qu'on apprenne à désapprendre. Je veux pas croire que le temps est avant. Qu'on soit juste une valeur marchande. Avant je rêvais de quitter la France. Fais rester, je préfère qu'on la change. Mélange vieille et nouvelle croyance. Mélange humanisme à la science. Évidemment c'est plus comme avant. Faut te faire une raison, c'est le concept du temps. Le monde est en mouvement, porte-moi dans le courant. Prends mon pouvoir, la tentation est trop grande. Prends mon ignorance. Je dois mettre un nom sur les choses pour les comprendre. J'essaie d'avoir un enfant, j'essaie d'avoir une civilisation. Je peux pas le faire tout seul, va falloir qu'on fasse ensemble.
Tout ensemble, rien ne peut perdre. J'ai pas fait que des choses dont je suis fier. Je peux devenir meilleur, je peux pas revenir en arrière. J'étais tout seul, on est des milliers. Bientôt vous allez tous m'oublier. Désolé, mais je vais devoir vous quitter. Dis-toi seulement qu'on a kiffé.
Hier c'était hier, aujourd'hui j'efface ces têtes. Hein. Je changerai pas ce que j'ai contre la jeunesse éternelle. Hein. On a fait ce qu'on a fait comme on l'a fait, mais on l'a fait. Hein. Tout se transforme, rien ne se perd. Ombre et lumière.
venez d'écouter Civilisation de Aurel San. Et maintenant, nous allons écouter l'interview de Hélène.
En effet, je suis allée rencontrer Bruno Magnan, photographe professionnel à Chamonix. La première question que je lui ai posée était: pouvez-vous nous parler un peu plus précisément de votre métier ?
Alors, je travaille pour des magazines, pour des journaux locaux ou régionaux, et puis aussi pour des clients privés. Principalement, mon travail, c'est de raconter un petit peu la vie des gens, beaucoup de social, de photos sociales, d'événementiel, et puis un peu de sport, puisque c'est moi aussi qui ici, pour le journal Le Dauphiné Libéré, m'occupe du hockey et d'autres sports, comme le ski, etc. Mais ça tourne toujours autour du social. Je fais en fait pas beaucoup de photos de montagne.
Comment avez-vous commencé la photo ?
Alors moi j'ai toujours fait de la photographie aussi loin que je m'en rappelle, et puis mon père était directeur de centre de vacances où il y avait des stages photos quand j'étais plus petit, et j'ai assisté à ces stages photos, ce qui m'a un petit peu permis de connaître un peu les techniques, et c'est là que j'ai commencé à avoir cette passion pour la photo que j'ai continué à suivre un petit peu toute ma vie.
Depuis combien de temps êtes-vous photographe ?
Alors ça fait, on va dire que ça fait depuis au moins 20 ans, j'ai fait de la photo, mais c'était pas forcément mon activité principale. Par contre, en activité principale, ça fait une dizaine d'années que c'est devenu, je suis devenu photographe professionnel.
Qu'aimez-vous le plus dans votre métier ?
Moi, ce que j'aime dans la photographie, c'est la rencontre avec les gens. La photographie, c'est quelque chose qui permet d'aller voir l'autre, de lui parler, pas seulement de le prendre en photo, parce que pour qu'une photo de... Quand on prend les gens en photo, on ne peut pas arriver devant eux et puis les viser avec l'appareil et prendre une photo. Il faut parler, il faut instaurer un dialogue. Et moi, ce que j'aime, c'est les possibilités de contact que la photographie m'a permis d'avoir tout au long de ce métier.
Et le moins ?
Ah, le moins, c'est difficile à dire. Moi, je suis pas du tout un fan des grandes photos de paysages, que ce soit de montagne ou d'ailleurs. C'est pas quelque chose. Je suis un photographe de l'instant. J'aime bien que ça soit rapide. J'aime bien que ma photo serve à quelque chose, qu'elle illustre un propos, qu'elle illustre un article. C'est pour ça que c'est ce que je fais. On appelle ça du photojournalisme. Et j'aime pas du tout, par exemple, aller 2 jours en montagne pour prendre la plus belle photo du lac Blanc avec les aiguilles de Chamonix qui se reflètent à l'intérieur.
Quelle est la partie la plus difficile de votre métier ?
La plus difficile, c'est... Je ne sais pas si on peut parler de difficulté. La difficulté vient toujours de la technique en photographie, mais au bout d'un moment, la technique, on l'a apprise, on l'a intégrée, et elle doit disparaître. Quand on prend en photo, quand on est professionnel et qu'on veut être efficace, on ne peut plus arriver et se dire, tiens, comment je vais faire ? Il faut que ça vienne automatiquement. Donc ça, c'est... Techniquement, il peut y avoir des difficultés. Hein. Il y a des photographies qui sont plus difficiles à prendre que d'autres, en fonction de la lumière, en fonction du lieu où on se trouve, etc. etc. Mais une autre forme de difficulté, c'est l'approche des gens. Parce que les gens ne sont pas toujours d'accord pour qu'on les prenne en photo. Donc c'est parfois un petit peu difficile. Il faut beaucoup de temps pour parler, beaucoup de temps pour essayer de les apprivoiser. Mais cette difficulté, c'est aussi un des aspects intéressants de la photographie sociale.
Selon vous, quels sont les points les plus importants pour avoir la photo parfaite ?
Alors, moi, je suis un peu peut-être différent des photographes on a l'habitude d'entendre. Pour moi, ça n'existe pas, la photo parfaite. La photo parfaite, c'est celle qui te plaît et qui plaît aux autres. Moi, je m'en fous un peu de qu'elle soit bien cadrée, qu'elle soit pas du tout floue, qu'elle soit... Si elle raconte quelque chose, si elle évoque quelque chose, un peu comme un tableau. Quand tu vas voir un tableau dans un musée, il y a des tableaux, tu sais pas pourquoi ils te plaisent. Et on s'en fout de ce qu'il y a derrière, combien de temps la personne a mis pour le mettre et tout ça. Ça a peu d'importance. Une photo, ça doit tout de suite déclencher quelque chose chez la personne qui la regarde. Moi, j'ai des gens que j'admire, hein, comme William Klein, qui ont pris des photos à New York. Certaines photos étaient floues, certaines avaient peu de lumière, etc. On pourrait considérer techniquement que ce ne sont pas des bonnes photos, mais elles racontent une histoire, elles racontent quelque chose. Il ne faut pas oublier une chose, c'est quand tu regardes la vie avec tes yeux, elle est parfois floue, elle est parfois mal éclairée, elle est parfois un peu de travers. La photo, ça doit aussi être un peu ça. Donc pour moi, en fait, il n'y a pas de vraie photo parfaite.
Quelles sont vos conditions ou contextes préférés pour prendre des photos ?
Ah, il y en a plein, parce que c'est tellement différent. Quand on fait du sport, on cherche l'action, on cherche la plus belle action, etc. C'est assez passionnant, donc c'est très dense. Hein. Quand tu photographies un match de hockey, pendant 2 heures, t'as l'œil sur ton viseur et t'essayes de trouver le meilleur geste et tout, et ça c'est passionnant. Mais ce qui est encore plus passionnant, c'est quand t'es avec des gens et que t'essayes de les photographier pour trouver l'expression de leur visage pour essayer de faire passer quelque chose à travers ta photo. C'est encore une fois une histoire de contact en fait avec les gens. Je pense que c'est ça le plus passionnant.
Vous illustrez de vos photos et des articles. Avez-vous une formation spécifique pour la photo de presse ?
Non, moi j'ai pas de formation spécifique. Alors j'ai fait beaucoup de choses dans ma vie. Hein. J'étais accompagnateur en montagne, mais j'ai aussi travaillé dans des centres de vacances. Enfin, j'étais souvent au contact des gens, donc j'ai une espèce de facilité. Ça m'a facilité la vie en tant que photographe d'aller au contact des gens. Pour moi, c'est assez facile. Après, je suis un autodidacte, c'est-à-dire que j'ai suivi aucun cours ni aucune école. Par contre, j'ai fait énormément de photos, je me suis énormément documenté, j'ai énormément regardé les gens qui faisaient des photos. J'ai beaucoup de gens qui m'ont inspiré et je continue à apprendre parce que la photo, je pense que c'est ça, comme beaucoup de choses, mais l'intérêt, c'est que tu continues toujours à progresser et à apprendre.
Quel statut avez-vous quand vous travaillez pour la presse ?
Alors j'ai deux statuts, hein. J'ai un statut d'indépendant, donc moi je suis indépendant, de toute façon travailleur indépendant, je suis ce qu'on appelle un photographe freelance, donc je peux avoir un statut d'indépendant par rapport à certains de mes commanditaires, mais par exemple quand je travaille pour le Dauphiné Libéré, je peux aussi avoir un statut de correspondant de presse en fait.
Et pour la dernière question, la technique est-elle différente pour prendre une photo de presse ?
Les techniques, c'est toujours les mêmes en photographie. C'est basique, la technique. Hein. C'est la profondeur de champ, c'est la lumière, c'est toutes ces choses-là qu'il faut régler pour avoir la meilleure photo possible. Après, c'est plus une histoire de technique, c'est une histoire d'intégration dans la scène, d'intégration avec les gens, de réactivité, parce que quand tu fais de la photo de presse, enfin en tout cas moi, c'est beaucoup avec des gens, donc parfois dans des événements, parfois simplement un portrait. Donc après... je pense que la technique, c'est plus une technique d'approche des gens et de savoir... Alors, la difficulté en photographie, c'est de pouvoir raconter une histoire. La photographie, c'est pas très difficile à la base, surtout aujourd'hui avec les techniques et les nouveaux appareils. Tu n'as plus grand-chose à faire pour être quasiment sûr d'avoir une bonne image techniquement, on va dire. Mais par contre, ce qui est difficile, c'est ce que je dirais à des photographes qui débutent, c'est s'agit pas d'aller prendre le Mont Blanc au coucher de soleil, ça, tout le monde est capable de le faire. Par contre, de raconter une histoire, si on me dit, ben voilà, ce monsieur, voilà sa vie, raconte-nous son histoire en 5, 6, 7, 8 photos, ça c'est plus compliqué. Et donc je pense qu'il faut travailler cette chose-là, il faut essayer d'arriver à travailler le fait de pouvoir raconter une histoire avec des photographies. C'est ça la particularité de la photo de presse.
Et ben voilà, c'est fini. Merci beaucoup à Anaïs pour le micro et à Bruno Magnin d'être venu pour l'interview.
Merci.
Around. She said, I am the one who
de la place pour informer, s'informer, déformer avec les oiseaux de l'information.
Bonjour, vous êtes toujours sur Globule Radio 90.5 FM avec ses élèves de 4e sur informer, s'informer, déformer. Vous venez d'écouter Billie Jean de Michael Jackson.
Maintenant, nous allons écouter une deuxième chronique de Tobias qui portera sur la Coupe du Monde de foot.
Maintenant, je vais vous parler d'un tout autre sujet qui est la Coupe du Monde de football 2022. Je vais commencer par parler de où se déroulera le mondial et des polémiques que cela a entraînées. Je vais ensuite vous parler de comment chaque équipe envisage ce mondial. Comme vous le savez, le mondial 2022 se déroulera au Qatar. Ce choix avait engrené une première polémique qui disait que Michel Platini aurait été payé par ce pays pour truquer le tirage au sort et faire en sorte que ce soit le Qatar qui soit tiré. Suite à ça, Michel Platini, l'ancien président de l'Union des associations européennes de football, avait été mis en garde à vue le mardi 18 juin 2019, mais elle a été levée le 19 juin 2019. Une autre polémique porte sur les stades du Qatar et comment ils ont été construits. En effet, plus de 6500 ouvriers immigrés ont trouvé la mort sur les chantiers lancés en vue de la Coupe du Monde depuis 2010. Je trouve ça très triste et décevant de voir jusqu'où certaines personnes sont prêtes à aller pour montrer leur richesse. Bien que ces polémiques ont bien fait parler, le mondial reste maintenu et en voici les équipes. Allemagne, Angleterre, Arabie Saoudite, Argentine, Belgique, Brésil, Cameroun, Canada, Croatie, Danemark, Équateur, Espagne, France, Ghana, Japon, Maroc, Pologne, Portugal, République de Corée, RAI Iran, Pays-Bas, Qatar, Sénégal, Serbie, Suisse, Tunisie et l'Uruguay. J'aimerais bien maintenant vous faire part de mon ressenti. Bien qu'il y ait quelques joueurs ou équipes comme le Danemark qui ont voulu protester, mais que trop de grosses équipes comme la France, l'Allemagne ou le Brésil ne disent rien, tant que ces équipes à travers leurs joueurs ou leurs dirigeants ne bougent pas, rien ne se passera. Tout ça pour dire que même dans le sport, les injustices sont présentes et que le plus important reste trop souvent l'argent.
Come on, Harry, we wanna say goodnight to you.
As It Was de Harry Styles, et nous allons à présent écouter une chronique faite par Anaïs qui va nous parler du faux dîner.
Bonjour, aujourd'hui, en ce mois de juin, laissez-moi d'abord vous souhaiter un bon été. Bientôt les vacances, bientôt la plage et les coups de soleil. Bientôt les kilos repris à cause des apéros et des barbecues. Bientôt la voiture en panne à cause des kilomètres faits pour aller en vacances. Et oui, vous aviez le moral, vous vous réjouissiez de la chaleur, de ces jours les plus longs de l'année. Je vais vous montrer que l'on peut aussi voir les choses différemment et tout inverser.
Et comment voir les choses alors ?
Ne nous rapprochons-nous pas en effet du prochain hiver. Vos vacances ne représentent que 5 semaines dans l'année, soit moins de 10% des semaines de l'année, donc ce n'est pas si positif. Mais je pourrais aller plus loin encore et vous promettre mon et merveille pour cet été. Vous dire que cette année est pour lutter contre le changement climatique, une glace sera offerte à tous les visiteurs de Chamonix. Ou qu'en raison de cette hausse des températures, Chamonix s'est portée volontaire pour accueillir des réfugiés esquimaux qui ont perdu leur igloo et quelques ours polaires qui seraient relâchés sur la mer de glace pour coloniser le massif du Mont Blanc.
N'importe quoi, tu vas bientôt nous annoncer notre rattachement à la Suisse suite aux dernières élections ?
Je n'irai pas jusque-là, mais c'est sûr, du contre-pied de la réalité, la fake news ou à la satire, il y en a aujourd'hui pour tout le monde. Et cette fin d'été vient me rappeler cette histoire restée célèbre et mystérieuse qui a touché notre belle ville de Chamonix il y a 6 ans en cette même période. C'est en effet à cette période que partout dans la ville, des affiches ont surgi pour présenter un nouveau journal, Le Faux Dîner, satire évidente de notre bien célèbre ami le Dauphiné.
Et que nous annonçaient ces affiches et ce journal à l'époque ?
Qu'un nouveau rendez-vous en terre inconnue allait avoir lieu avec comme histoire principale des chamonnières découvrant Sallanches. Que Valorcine pourrait bientôt être rattachée à la France. Qu'une femme serait décédée d'une overdose de rooibos lors du yoga festival. Qu'un concert de free jazz aurait lieu dans une crevasse. Ou encore que nos amis les guides devraient déposer leur ego pour ne plus alourdir les bennes.
Comment ces affiches ont-elles été vues ?
Parodie ou vérité, chacun y verra sa réalité, mais à l'époque, ces affiches ont fait beaucoup parler. Entre ceux qui voyaient au travers de ces affiches les nouvelles réalités de la vallée, hashtag André Manoukian et ses idées loufoques ou magnifiques pour le Cosmo Jazz, ou hashtag les valeurs saintes et le vieil ours, symbole de la commune, ou entre ceux qui ont trouvé ça complètement nul et très négatif à l'égard de la population locale qui s'est beaucoup offerte, à la communauté anglaise par exemple. Ou des personnes qui essayent de diversifier les offres touristiques, avec le festival de yoga ou la Corse à Chamonix par exemple.
Combien d'affiches ont été placardées dans Chamonix ?
Au total, ce sont 42 affiches qui ont été placardées dans toute la ville et qui firent tant parler que les archives communales ont très vite cherché à en récupérer des exemplaires, mais aussi à en connaître les auteurs. D'une histoire de parodie, cela devenait un fait historique. Mais un fait mystérieux, toujours, puisqu'après un appel à témoins, les affiches furent bien déposées aux archives municipales, mais dans un carton et dans le plus strict anonymat. Mystère, mystère donc, me diriez-vous, et tout aurait pu s'arrêter là.
Mais alors, pourquoi en parles-tu aujourd'hui ?
Mais si je vous en parle aujourd'hui, c'est aussi parce que cette histoire a connu un nouveau rebondissement en 2020. Sur Twitter cette fois, à croire que les auteurs se sont plus modernisés que le Dauphiné. De nouvelles publications ont vu le jour sous cette dénomination de faux dîner.
Et que nous disait-elle cette fois ?
Qu'en raison de la canicule, des canons à neige allaient être disposés dans Grenoble pour lutter contre la chaleur. Que pour refroidir la température d'été, il était demandé aux automobilistes de rouler avec la climatisation et surtout les fenêtres ouvertes. Qu'on allait suspendre des cyclistes aux bulles de la Bastille s'ils commettaient des infractions, notamment celle de monter sur les trottoirs. 4 ans après les affiches, le faux dîner faisait son grand retour. Original ou copycat, la question pouvait toutefois se poser. En effet, même si le but semblait le même, la satire et la parodie, même si le système était identique, un gros titre et une phrase choc, avec éventuellement une image, même si les thèmes abordés étaient concordants, la vie locale, la politique, les citoyens, des différences notables étaient présentes, notamment en ce qui concerne la ville. Si les affiches s'étaient intéressées à Chamonix, la version Twitter dénonçait des actualités grenobloises avec une envie de tirer à boulet rouge sur Éric Piolle, maire écologiste de cette ville. Est-ce donc le ou les mêmes auteurs ? Est-ce que les auteurs auraient décidé de changer de cible ou auraient déménagé de Chamonix à Grenoble ? L'un se serait-il inspiré de l'autre ? Ou ces deux affaires n'auraient-elles rien en commun et seraient-elles simplement le fruit d'une pure coïncidence ?
As-tu trouvé qui sont les auteurs ?
Pour vous et pour rendre hommage à cette histoire qui a marqué la vallée il y a 6 ans, j'ai mené l'enquête espérant retrouver la trace des auteurs. J'ai ainsi appelé les archives de la commune et la maison du patrimoine. J'ai envoyé un message sur Twitter. Enfin bref, pour vous et vous me connaissez, j'ai tout essayé mais je suis désolée, je n'ai trouvé de réponse à aucune de mes questions. Tant pis, le mystère reste entier et peut-être est-ce mieux comme cela. Et cela d'autant plus que, je vous laisse juger par vous-même, la vallée n'a pas tant changé que cela et le rattachement de Valorcine à la France mériterait toujours d'être demandé alors qu'un musicien trouvera bien le moyen d'un de ses jours jouer dans une crevasse. Alors en ce mois de juin, rions, parodions, blagons, car cela nous aidera à passer un bel été. Et puis, cela peut aussi amener à réfléchir sur quelques réalités que certains ne voudraient pas entendre. Et moi, c'est celui que j'avais envie de vous faire passer. Je vous souhaite un bon été à tous, à bientôt.
Bonjour, vous êtes toujours sur Globule Radio 90.5 FM, il est 11h43 avec ses élèves de 4e sur Informer, S'informer, Déformer. Vous venez d'écouter Bad Guy de Billie Eilish et nous allons à présent écouter une chronique faite par Eileen et qui va nous parler de la maltraitance des animaux.
Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet certes triste mais hélas très présent encore en 2022, la maltraitance des animaux. Il y aurait un million de choses à dire mais cela serait beaucoup trop long donc j'ai décidé de vous parler des animaux dans les cirques. Commençons par un chiffre, 800. C'est beaucoup, n'est-ce pas? Eh bien, cela représente le nombre d'animaux sauvages emprisonnés dans les cages minuscules et insalubres des cirques en France seulement. Plus de la moitié sont des fauves et on compte aussi des éléphants, des hippopotames, des zèbres, des autruches, des dromadaires, des singes, des girafes, des serpents géants, des lamas. sans compter les animaux plus domestiques qui ne vivent pas mieux, des chevaux et des chiens. Pensez-vous qu'ils sont faits pour vivre autre part que dans la nature, dans leur lieu de vie naturel, libre et heureux, sans se faire frapper par de violents coups de fouet s'ils ne font pas les tours et acrobaties qu'on leur demande? Mais les gens préfèrent ignorer que de faire face au problème. Certes, certains ne sont pas au courant de cette maltraitance, mais la plupart le sont. Malgré ça, les gradins des cirques continuent d'être remplis jour après jour. Les jeunes enfants ne sont pas informés, donc quand ils sont dans la voiture en train de regarder dehors et qu'ils voient les affiches joyeuses et colorées sur lesquelles on peut lire « Venez nombreux lundi, mardi et mercredi soir pour rencontrer notre nouvelle mascotte, le magnifique lion Simba » et bien plus encore. Alors les enfants demandent à leurs parents s'ils peuvent y aller, ceux-ci préfèrent faire comme si de rien n'était et y aller. Alors si tout le monde agit comme cela, les cirques seront remplis à chaque fois et continueront de maltraiter leurs mascottes et tout cela pour de l'argent. Une autre alternative serait d'aller voir des cirques sans animaux. Heureusement, les 120 cirques de France ne pourront plus présenter ou détenir d'animaux sauvages d'ici 2028, ce qui laisse encore 6 ans pour mettre en place des solutions adaptées.
Il y a toujours de la place pour informer, s'informer, déformer avec les oiseaux de l'information.
D'écouter Sweet Dreams de Eurythmics, Annie Lennox et Dave Stewart.
Il y a toujours de la place pour informer, s'informer, déformer avec les oiseaux de l'information.
Merci de nous avoir écoutés. Ce fut un réel plaisir de participer à ce projet. Merci beaucoup à Madame Maire, à Globule Radio et à tous ceux qui ont répondu à nos questions de nous avoir permis de réaliser cette émission.
Merci, au revoir.
Merci, au revoir.
Vous allez maintenant écouter Fever de Angèle et Dua Lipa.